Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour, Shalom Aleichem.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, Astrid n'est pas là, mais il y a notre petite collaboratrice, Yaël, qui a voulu lire encore un conte d'Isaac Bashevis-Singer, qu'elle aime bien. Donc j'en ai choisi un. C'est pris dans le livre qui s'appelle « Contes ». Donc ce sont des contes écrits évidemment comme toujours chez Bashevis-Singer, d'abord en yiddish, mais qu'il a lui-même traduit de l'anglais et qui ensuite ont été traduits de l'anglais par Marie-Pierre B., qui est vraiment celle qui a fait connaître en France Isaac Bashevis-Singer. Et donc, c'est paru au nouveau cabinet Cosmopolite de Stock. C'est peut-être paru entre-temps dans une autre édition, mais moi, j'ai l'édition ancienne. Et donc, nous allons lire une histoire sortie de ce recueil qui porte sur un lutin voilà, qui s'appelle Lanter. Bashevis-Singer, comme il le raconte dans ses mémoires, est quelqu'un qui a tout de suite cru, dès sa plus jeune enfance, il a cru aux démons, aux êtres invisibles. Disons que la rationalité qu'on voyait ne lui suffisait pas. Et donc, il a toujours eu comme ça une tendance à imaginer ou à penser qu'il existait autre chose que ce qu'on voit. Contrairement à son frère, Yisrael Yehoshua, qui lui était vraiment un rationaliste, et quand on lit les romans de son grand frère, il y se passe toutes sortes de choses, mais tout est toujours dans la réalité la plus concrète. Alors que chez Singer, il y a vraiment plusieurs inspirations, et dont l'une est une inspiration on peut dire mystique ou magique, voilà. Et donc, c'est un petit peu à cela que ressort le conte que nous allons lire. Il y a aussi des contes magiques comme ça, absolument terribles, avec le diable qui a vraiment un aspect extrêmement effrayant. Ici, comme vous allez le voir, ce n'est pas effrayant, c'est un conte pour enfants. Donc, Singer a dit qu'il s'est mis à un moment à écrire des contes pour enfants parce qu'il dit que les enfants ne font pas attention à qui est l'auteur, ils n'essayent pas de voir si c'est de la grande littérature. Ils lisent, et si ça leur plaît, c'est bien, et si ça leur plaît pas, eh bien, ils laissent tomber. Mais ils ont un regard très, très clair et très neuf sur les histoires, et donc c'est ça qui lui plaît. Voilà, donc nous allons commencer à lire ce conte avec Yaël qui va commencer.
Le Lanter, une histoire de ma tante Yentl. L'été, ma tante Yentl aimait raconter des histoires après le déjeuner du Shabbat, quand mon oncle Joseph allait faire sa sieste. Elle s'installait sur le banc, devant la maison, et sa chatte, Dvosha, venait l'y rejoindre. Ce jour-là, Dvosha avait droit à toutes sortes de bons restes, des morceaux de viande et de poisson. Elle se posait très exactement sur les pieds de ma tante, dont elle aimait énormément les histoires. À la façon dont elle dressait les oreilles et fermait à demi ses yeux, aussi verts que des groseilles à maquereaux, on voyait bien qu'elle comprenait tout ce que ma tante disait. Pour le Shabbat, ma tante revêtait une robe brodée, un bonnet orné de perles de verre et de rubans verts, rouges et bleus. Ce jour-là, ma mère vint également s'asseoir dehors, rejointe par deux voisines, Riva Schendel. J'apparus le dernier et pris place sur un petit tabouret. Outre le fait que j'aimais beaucoup écouter les histoires de ma tante Yentl, je savais que tôt ou tard, elle me donnerait un fruit, parce que c'était le Shabbat. Une pomme ou une poire, ou des prunes. Parfois, elle me donnait aussi un petit gâteau à la cannelle et au raisin. Il me disait toujours la même chose en me le tendant. Cela te donnera des forces pour étudier.
Cette fois-là, la conversation portait sur les démons familiers et plus particulièrement cette sorte de lutin qu'on appelle la lanteur. Tantienne aimait bien parler des esprits, des démons, des farfadets et des lanteurs et je l'entendis déclarer « Oui, les lanteurs existent. De nos jours, on ne croit plus à ces choses-là. Mais de mon temps, on savait bien que la raison ne suffit pas à tout expliquer. Le monde est plein de secrets. Un lanteur, c'est une sorte de lutin qui n'est pas méchant. Il ne fait aucun mal. Au contraire, il essaye même d'aider de son mieux tous les membres de la famille. D'ailleurs, il fait un peu partie de la famille. D'habitude, il est invisible. Mais il arrive parfois qu'on le voit. Où habite un lanteur ? Dans la cave ou dans le hangar à bois ou derrière le poêle avec le grillon. Les lanteurs adorent les grillons. Ils leur apportent à manger et comprennent leur langage.
Tantienne-t-elle, quand je serai grand, j'apprendrai le langage des grillons, l'interrompis-je d'une voix pointue. Tantienne-t-elle sourit de toutes les rides de son visage. Mon enfant, ce n'est pas un langage qu'on peut apprendre. Seul le roi Salomon connaissait le langage des animaux. Il savait parler aux lions, aux ours, aux loups, aux oiseaux aussi. Mais revenons au lanteur. Il y en avait un dans la maison de mes parents. L'été, il vivait dans la réserve à bois et l'hiver, il s'installait derrière le poêle. Nous ne le voyions jamais. Mais parfois, nous l'entendions. Une fois, ma sœur, Kélia, éternua et il lui dit « À tes souhaits !» Nous l'avons toutes entendues. Le lanteur nous aimait tous, mais celle qui préférait, c'était Kayla. Quand elle s'est mariée et est partie vivre à Lublin avec ses beaux-parents, je n'étais alors qu'une gamine de 8 ans. Le lanteur est venu la voir la veille de son départ pour lui dire au revoir. En pleine nuit, Kayla a entendu un petit grincement et voilà que la porte s'est ouverte toute seule. Le lanteur s'est approché du lit de Kélia et il lui a chanté « Trempe le linge, lave les chemises, coupe la viande, pétris la pâte. Moi, je pensais à toi. Toi, tu ne m'oublieras pas. » Kélia a eu si peur qu'elle en a perdu sa langue. Le lanteur l'a embrassé sur le front et il est parti. Kélia adorait les gâteaux aux amandes. Quand ma mère en faisait pour Simchat Torah ou pour Purim, c'était toujours Kélia qui mangeait la plus grosse part. Ce soir-là, elle a allumé sa chandelle. Et qui avait-il sur son lit bien en évidence sur la couverture ? Un gâteau aux amandes, tout chaud, qui venait de sortir du four. Elle s'est mise à crier et toute la famille est arrivée, en courant. Le gâteau, je l'ai vu de mes propres yeux ! Où le lanteur l'avait-il trouvé ? Je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être une voisine en avait-elle préparé plusieurs ce soir-là. Ou peut-être les lanteurs savent-ils faire des gâteaux après tout. Toujours est-il que ce gâteau-là, Kayla n'a pu résoudre à le manger. Elle l'a conservé précieusement et il est devenu dur comme une pierre.
Voilà, alors avant d'aborder une deuxième histoire de lanteur, toujours racontée bien sûr par la tante Yentl, nous allons écouter un groupe de jeunes musiciens de Strasbourg. J'ai pris ça parce que ce ne sont pas vraiment des enfants, mais enfin, ce sont des jeunes. Donc, c'est le groupe qui s'appelle les Papyrossen, dirigé par Jean-Claude Schoschkan. Et ce groupe a sorti un livre qui s'appelle « Les Tzigoines ». Ce sont des musiques traditionnelles d'Europe, ça fait déjà un moment que ça a été sorti. Et donc il y a des musiques tziganes, des musiques roumaines, des Balkans, mais également bien sûr de la musique klezmer. Et donc nous allons écouter un morceau qui s'appelle « Bei dem Shtetl ». Thank you. ça se termine très brusquement, cette musique joyeuse, donc qui s'appelle le Shtetl, de retour du Shtetl, ou quelque chose comme ça, Bei dem Shtetl, donc au village. Voilà, avec un groupe dirigé par Jean-Claude Choskan, qui joue aussi de la guitare, pardon, et qui comporte violon, alto, accordéon, clarinette, violoncelle, contrebasse, darbouka. Voilà, tout un groupe de jeunes musiciens qui sont au Conservatoire de Strasbourg et qui font également de la musique klezmer. C'est vraiment toujours un grand plaisir de les écouter. Alors, nous continuons donc avec l'histoire de Tante Yentel et des Landtours. Et là, cette fois-ci, on passe à un autre récit. Chez nous, à Janov, il y avait un maître d'école dont la femme était toujours malade. Ils avaient une fille aveugle de naissance. Le maître d'école mourut subitement et les deux femmes se retrouvèrent seules au monde et démunies de tout. On parla bien de les envoyer à la maison des pauvres, mais qui a envie d'aller vivre là-bas ? Les pauvres y couchent sur des paillasses posées à même le sol et la nourriture n'est pas fameuse. Quand on vint les chercher pour les conduire chez les pauvres, la mère et la fille gémirent et se lamentèrent. « Plutôt que d'aller pourrir là-bas, nous aimons mieux mourir chez nous. On ne peut forcer personne à aller vivre dans la maison des pauvres. » Les voisins se dirent que le maître d'école avait dû laisser quelques guldens derrière lui et que les deux femmes feraient les difficiles tant qu'il leur resterait de quoi s'acheter du pain. Après, une fois qu'elles auraient faim, elles remercieraient le ciel d'avoir permis que les maisons des pauvres existent.
Les jours passèrent, puis les semaines, mais la mère et la fille ne cédaient pas. La ville était dévorée de curiosité. Comment faisait-elle donc ? La mère ne quittait pas son lit, et la fille était aveugle. Il y a des aveugles qui arrivent à se débrouiller pour circuler un peu. Mais la fille du maître d'école, elle s'appelait Treisel, n'allait jamais plus loin que la cour de sa maison. Je la revois, rousse, le visage coloré, les bras et les jambes minces. Elle avait les yeux bleus et ils avaient l'air tout à fait normaux. Mais en réalité, elle ne voyait rien, absolument rien. On commença à se demander si le maître d'école ne leur avait pas laissé beaucoup plus d'argent qu'on ne croyait. Mais ce n'était pas possible. D'abord, il avait toujours été très pauvre. Et ensuite, ni la mère ni la fille ne quittaient jamais la maison. On ne les voyait dans aucune boutique. Où trouvaient-elles donc la nourriture dont elles avaient besoin ? À supposer qu'elles aient eu de l'argent. Mes bons amis, il y avait un Lunter dans la maison. Quand il avait compris que les deux femmes restaient seules au monde, sans la moindre ressource, il avait pris l'affaire en main. Cela vous fait rire ? Ce n'est pourtant pas drôle. Il leur apportait tout ce qu'il leur fallait. Du pain, du sucre, des harangues. Il faisait cela la nuit. Une fois, un jeune garçon passa près de la maison, vers minuit, et il entendit qu'on coupait du bois dans la cour. Il se méfia. Qui pouvait bien s'amuser à couper du bois en pleine nuit ? Il poussa la grille et vit une hache qui s'agitait toute seule au milieu de coupeaux volants dans toutes les directions. Il n'y avait personne. C'était le Lunter qui préparait les provisions de bois pour l'hiver. Le lendemain, quand le garçon raconta ce qu'il avait vu, on se moqua de lui. On lui dit « Tu as sans doute rêvé !» Mais c'était vrai.
Quelques semaines plus tard, un gros commerçant revenait de Lublin à minuit. En passant près d'un puits, il vit la corde descendre toute seule et le seau plein d'eau remonter. Il n'y avait personne alentour. Le commerçant se dit aussitôt que ce devait être un tour de ces créatures, les démons de la nuit. Mais c'était un homme solide qu'on n'effrayait pas comme ça. Il s'appelait Meir David. Il empoigna ses franges rituelles, récita tranquillement « Shema Israël »,« Écoute Israël » et attendit pour voir ce qui allait se passer. Une fois que la créature invisible tirait un seau d'eau, elle en tira un deuxième et les deux seaux d'eau s'enfuirent l'un derrière l'autre comme si un porteur invisible les avait suspendus à un joug. Meïr David suivit les sceaux et les vit entrer dans la maison de la veuve. Le lendemain, il alla trouver le rabbin et lui raconta ce qu'il avait vu. Ce Meïr David était un homme honnête, incapable d'inventer une histoire pareille. Ce fut un beau tohu-bohu dans toute la ville. Le rabbin convoqua la veuve et sa fille. Mais la veuve était trop malade pour quitter son lit. Elle ne pouvait d'ailleurs même plus parler. Et peu après, elle mourut.
La fille aveugle dit au rabbin « Quelqu'un nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Mais je ne sais pas qui c'est. Sans doute un ange du ciel ?» Mais ce n'était pas un ange, c'était le Lunter. Après la mort de sa mère, la fille vendit la maison et s'en alla vivre en Galicie chez des cousins.
Le Lunter n'est pas parti avec elle, demanda Riva, notre voisine.
Qui sait ? En général, un Lunter ne quitte pas la maison où il habite.
Un Lunter, ça vit à jamais ? Demanda Scheindel.
Personne ne vit à jamais, répondit Tatientel. Le silence se fit. Je regardais la chatte. Elle s'était endormie. Tantientel se tourna vers moi. Je vais te donner maintenant ton fruit du Shabbat. Si un jeune garçon veut étudier la Torah, il doit prendre des forces. Et elle me tendit un petit gâteau et trois prunes.
Voilà, donc le petit garçon a eu son récit et aussi quelque chose à manger. Donc c'est vraiment le plaisir d'écouter les histoires et aussi d'avoir une petite gâterie. Voilà, et bien nous allons continuer avec toujours ce disque de Tsigoynes et écouter cette fois encore une musique klezmer qui s'appelle cette fois Yoshke, Yoshke. Thank you. Voilà, alors vous avez peut-être reconnu le thème de « Tire, tire l'aiguille, mon ami », qui est en fait effectivement une chanson yiddish. En yiddish, c'est le rabbin qui dit « il vaut mieux boire de l'eau de vie et pas du vin ». Et c'est une des chansons qui font partie du répertoire de notre chorale, l'Omir Zingen. Alors, si vous vous demandez ce que fait notre chorale, je vous signale qu'elle fera un concert le 5 mars, mais pas à Strasbourg, ce sera à Sainte-Marie aux Mines, dans le Temple. Voilà, donc pour les gens qui habitent dans la région, ça peut être l'occasion d'entendre notre spectacle, les mondes yiddish d'Itzik. Ce sera à 17h, donc à Sainte-Marie aux Mines, au Temple, le 5 mars. Et je vous dis Shalom Aleichem! Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.